Bonjour à vous, fidèles auditeurs de la VOA. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'information qui vous est présentée par Nani Tetalani. Il est 10h ici à Washington, 16h à Mondi et Tabakulu en Eswatini. La junte au pouvoir au Tchad a salué aujourd'hui la décision de l'Union africaine de ne pas sanctionner les nouvelles autorités au pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby Itno. L'Union africaine a exigé dans ses conclusions rendues publiques hier que les autorités militaires achèvent en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Nous nous réjouissons de cette décision, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Il y aura un forum inclusif qui se mettra en place et se penchera sur les questions des élections, de la réconciliation nationale et partant de la paix d'une manière générale, a-t-il poursuivi. Wakitama, une plateforme composée d'associations de la société civile et de partis politiques de l'opposition qui appelle à manifester contre la junte au pouvoir et dénonce un coup d'État, critique la décision de l'Union européenne. On jette à la poubelle les conclusions de l'Union africaine qui consistent à ne pas condamner la prise de pouvoir par la force des armes, a indiqué Max Lolongar, coordonnateur de Wakitama. L'Éthiopie a expulsé Simon Max, un correspondant étranger travaillant pour le New York Times, après avoir eu sa licence révoquée pour des reportages jugés déséquilibrés, a confirmé aujourd'hui un responsable gouvernemental. Reporters sans frontières a condamné la décision de renvoyer Simon Max, le journaliste irlandais qui vivait en Éthiopie, déclarant que c'était la première fois qu'un journaliste étranger était expulsé du pays sous les ordres du premier ministre Abiy Ahmed. Dans un article sur l'expulsion de Max, le New York Times a déclaré que des responsables éthiopiens l'avaient convoqué à une réunion jeudi et l'ont détenu à l'aéroport pendant 8 heures avant de le mettre sur un vol après minuit et vendredi. C'est alarmant que le gouvernement éthiopien ait traité le journaliste Simon Max comme un criminel, l'expulsion du pays sans même le laisser entrer chez lui pour changer de vêtements ou son passeport, a cité Michael Slackman, comme dit son rédacteur en chef adjoint au le service international. Washington condamne la nomination de l'ancien chef de guerre libérien Prince Johnson à la présidence de la Commission de défense du Sénat libérien. L'élection mardi de Prince Johnson à cet éminent poste a suscité la colère des États-Unis, un pays qui a des liens forts avec le Libéria. Dans un communiqué, l'ambassade américaine à Monrovia a déclaré que les violations grossières des droits humains commises par le sénateur Johnson pendant les guerres civiles font l'objet d'une documentation abondante. Les efforts qu'il a déployés pour ne pas avoir à rendre des comptes, remplir ses propres caisses et s'aimer la division sont aussi bien connus. Au Zimbabwe, la veuve de l'ancien président Robert Mugabe est condamnée par un tribunal traditionnel à donner 2 chèvres et 5 vaches pour avoir enterré son mari de manière jugée inappropriée. Il lui est reproché d'avoir enterré son mari dans la cour de sa maison natale de Kutama à 90 km à l'ouest de la capitale Harare. Ce tribunal qui ne peut contraindre l'accusé, mais dont les décisions ont une portée symbolique forte, s'était réuni hier matin en l'absence de Grace Mugabe, l'accusé. Le chef Stanley Mondora a affirmé que Mugabe était censé être enterré à un endroit choisi par sa mère ou la famille dans laquelle il est né. Il a réclamé l'exhumation du corps et une réinhumation conforme à la coutume. L'actuel président Emmerson Mnangagwa souhaiterait qu'il soit inhumé au Panthéon national des héros de la lutte de libération à Harare. Mais le neveu de Mugabe a affirmé la semaine dernière à la chaîne SABC qu'il n'y avait aucun conflit au sein de la famille à ce sujet, car M. Mugabe, de son vivant, avait clairement affirmé ne pas vouloir être enterré au Panthéon. COVID-19, les producteurs de vaccins contre le coronavirus Pfizer, BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson se sont engagés au cours d'un sommet du G20 à fournir à prix coûtant ou réduit 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres en 2021 et 2022. Environ 1,3 milliard de doses devraient être livrées cette année, le reste l'an prochain. Pfizer devrait fournir 2 milliards de doses, Moderna jusqu'à 995 millions et Johnson & Johnson jusqu'à 500 millions de doses. C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la Voix de l'Amérique.